Théologie scientifique sur le Verbe incarné, le 6 novembre 84, Rimont.
Et d'entrer dans l'article 2, soyons toujours à bien saisir la signification de cette question dans une vision de l'économie divine et dans un regard sur la sagesse divine. Comment Dieu regarde-t-il le mystère de l'incarnation ? Il faut toujours se remettre dans cette lumière. Hein ? Et comment nous pouvons essayer de rejoindre ce regard de Dieu ? Donc, c'est un article très contemplatif. Hein ? C'est pour ça qu'au point de vue des raisons qui sont données, ça ne peut se comprendre que dans un regard de sagesse. C'est toute la finesse de cette question. Alors, nous avions vu, premier article dans toute sa force, c'est la ratio boni, sur laquelle s'appuie cette raison de convenance de l'incarnation. Et comme Dieu est souverainement bon, tout ce qui se rapporte au bien, nous pouvons comprendre que ça se rapporte à Dieu. Le bien se communique, c'est le propre du bien, c'est comme une propriété du bien, c'est même plus, c'est l'analogie que prend saint Thomas. Comme raisonner caractérise la nature humaine, se communiquer fait partie de la ratio boni. C'est beau l'analogie, parce que je crois que c'est le quatrième percée, comme ce que j'avais dit, le katoto d'Aristote, que nous retrouvons ici, c'est l'activité. Et en même temps, ça touche à la nature même du bien. De voir que le propre du bien, c'est de se communiquer. Comme Dieu est souverain, le bien souverain, le propre de Dieu, c'est de se communiquer de la manière la plus souveraine qui soit. Or, l'incarnation apparaît comme la communication la plus grande qui puisse être, maximée, dit saint Thomas. Donc, on voit la convenance. Donc, par le point de vue de la bonté. Ce n'est pas la toute-puissance, c'est le point de vue de la bonté. Et c'est important de souligner ce point de vue-là. Parce que ça montre tout de suite que la révélation nous communiquant Dieu amour, nous sommes par là directement dans l'orientation de ce mystère de l'incarnation. C'est quelque chose d'ultime en Dieu qui nous permet de découvrir cette convenance de l'incarnation. L'article suivant, l'incarnation est-elle nécessaire au relèvement du genre humain ? Alors, c'est déjà très difficile, très différent. Vous voyez, d'un côté, c'est le mystère de l'incarnation. De l'autre côté, c'est le mystère de la rédemption. C'est l'incarnation par rapport à nous. Tandis que le premier article, c'est l'incarnation par rapport à Dieu, si j'ose dire. C'est l'incarnation dans le regard de Dieu par rapport à son propre mystère. Est-ce qu'il est convenable de penser que Dieu puisse penser l'incarnation ? Alors, si vous vous placez dans la bonté, oui. Parce que Dieu pense, voit tout dans sa bonté. Alors, cet article distingue tout de suite, et c'est là ce que saint Thomas souligne dans cet article, deux manières de concevoir le point de vue de la nécessité par rapport à une finalité. Un moyen est nécessaire d'une façon absolue, un moyen est nécessaire pour quelque chose de plus parfait. D'une façon pour atteindre mieux la fin. Donc le relèvement humain peut se faire indépendamment de l'incarnation. Donc l'incarnation n'est pas un moyen nécessaire. Selon la sagesse de Dieu et dans la lumière de la sagesse de Dieu, relativisons ce moyen de l'incarnation, si j'ose dire. Hein, vous voyez bien. Parce que de fait, Dieu aurait pu sauver le genre humain autrement. Là, vous voyez, ça c'est l'appel à la toute-puissance. C'est plus la sagesse. Hein. Au point de vue de la toute-puissance. Au point de vue de la toute-puissance, je ne peux pas dire que ce moyen s'impose. C'est ça qui est très important à bien saisir. Parce qu'au fond, si on est attentif aux diversités des théologies, il y a des théologies de la toute-puissance, il y a des théologies de la bonté. Il y a des théologies de la simplicité, il y a des théologies de l'omniprésence. Forcément, ça ne peut pas être autrement. Une théologie plus parfaite doit assumer ces différents aspects du mystère de Dieu, qui sont tous dans la simplicité du côté de Dieu, mais pour nous qui sont saisis différemment. Et vous voyez très bien la manière dont saint Thomas, lui, va utiliser ces différents aspects. La bonté, premier article. L'article suivant, si je me place du côté de la toute-puissance de Dieu, je ne peux pas dire que l'incarnation est le seul moyen du relèvement du genre humain. Dieu pouvait employer un autre moyen. Alors, d'autre part, si je comprends que c'est un moyen privilégié, alors cette nécessité qui n'est plus la nécessité absolue, mais qui est la nécessité par rapport à quelque chose qui nous donne plus, alors oui, l'incarnation est un moyen merveilleux, le moyen le plus convenable pour relever le genre humain. Alors là, deux aspects qui divisent l'article. D'abord, pour essayer de comprendre comment l'incarnation va permettre au genre humain le plus grand progrès, si vous voulez, c'est la motion la plus grande, la promotion de l'homme dans le bien. L'incarnation permet à l'homme d'être situé par rapport au bien de la manière la plus parfaite qui soit. Il pourrait être autrement, mais de fait, l'incarnation permet à l'homme de se situer de cette manière la plus parfaite. Or, l'homme est situé vers le bien par les vertus théologales, en premier lieu. Alors, c'est là qu'apporte l'incarnation à la foi, qu'apporte l'incarnation à l'espérance, qu'apporte l'incarnation à la charité. Et chaque fois, vous voyez que saint Thomas souligne un aspect caractéristique de la foi. C'est toujours la même foi, qu'il y ait eu l'incarnation ou pas l'incarnation, substantiellement c'est la même foi. La foi ne se définit pas par rapport au mystère d'incarnation. La foi se définit par rapport au mystère de la Très-Sainte Trinité. L'espérance se définit par rapport au mystère de la Très-Sainte Trinité. Et la charité aussi. La ratio fidei, la raison d'espérance et de charité se définissent par rapport à la Très-Sainte Trinité. Donc, le mystère de l'incarnation ne spécifie pas ma foi, mais permet à ma foi d'acquérir une certitude plus grande, permet à mon espérance de connaître un élan maximé. Alors c'est très curieux, là aussi ce serait intéressant de voir comment le maximé du côté de l'espérance et de la charité, pas du côté de la foi. Comme si du côté de la foi, le mystère de l'incarnation n'apportait pas le même apport. Vous voyez, l'espérance et la charité sont du côté de l'amour, puisque c'est du côté de la volonté. Bien, du côté de la volonté, saint Thomas emploie le terme maxime irigitur, maxime excitatur, du côté de l'espérance et de la charité, comme si le mystère de l'incarnation mettait au point de vue de l'amour un maximum. Tandis que du côté de la foi, magis. C'est très très curieux. Ça, il faut être très sensible à ça, parce que saint Thomas a un langage d'une précision, c'est pour ça qu'on ne peut pas se tenir à la traduction. Hein. Il a une précision qui fait qu'on doit être attentif à ça, voir qu'apporte l'incarnation à la promotion de l'homme dans le bien. C'est tout à fait actuel. Hein. La promotion de l'homme dans le bien. Alors, c'est beau du reste de voir ça. Prêcher l'incarnation comme ça, vous voyez ? On ne prêche pas beaucoup l'incarnation comme ça. La promotion pour l'homme. Cette chose inouïe, l'homme va être situé grâce à l'incarnation, il va être situé d'une manière toute nouvelle vers le bien. Toute nouvelle, comprenons bien, c'est la même foi, mais la foi pourra avoir une intensité plus grande. C'est la même espérance et c'est la même charité, mais alors la charité et l'espérance vont atteindre un sommet maximé. Alors ça, réfléchissez là-dessus. Comment, du côté de l'amour, l'incarnation apporte un maximé. Et comment, du côté de la foi, une plus grande certitude. C'est très très joli ça. Et c'est intéressant parce que ça nous aide à mieux comprendre. Ça nous aide à mieux comprendre comment, du côté de l'amour, c'est pas étonnant, c'est du côté de l'amour, puisque la première raison de l'incarnation, c'est la communication la plus grande de l'amour. Donc, du côté de l'amour, le mystère de l'incarnation apporte plus que du côté de la foi, si j'ose dire. Parce que du côté de l'amour, il apporte un maximé. C'est une œuvre d'amour, l'incarnation. C'est une œuvre de bonté. n'est pas une œuvre d'intelligence en premier lieu. C'est une œuvre avant tout d'amour. Alors c'est pour ça que ça correspond, vous voyez, le maximé vient là. Maximé réditur, maximé citatur. Donc du côté de la charité, il y a ce maximé, et du côté de l'espérance, il y a ce maximé. Et du côté de la foi, uniquement magis. Saint Thomas ajoutera une quatrième raison, c'est intéressant de voir pourquoi il ajoute la quatrième raison, c'est qu'il ne regarde pas seulement notre promotion par les vertus théologales, mais les vertus théologales informent toute la vie humaine. Et alors l'information de toute la vie humaine, c'est justement de montrer comment l'incarnation va apporter à l'opération droite un exemple. Ça donne un exemple pour nous, l'exemple le plus merveilleux qui soit. Et après avoir montré ce point de vue de l'opération humaine transformée par la grâce, on regarde le fondement même de toute notre vie divine et en même temps le terme. On regarde la pleine participation de la divinité, qui est vraiment la béatitude de l'homme, qui est la fin de la vie humaine. Grâce à l'incarnation, nous sommes liés à la sainteté du Christ, c'est-à-dire à la plénitude du Christ. Et donc, nous avons une situation nouvelle par rapport au mystère de la grâce. C'est la même grâce. C'est la même grâce qu'il y ait le mystère de l'incarnation ou pas le mystère de l'incarnation, mais c'est une grâce qui a une plénitude. Oui, prologue de Saint Jean. Là, on voit très bien combien Saint Thomas à méditer ce prologue de Saint Jean, de sa plénitude, nous avons tous reçu. Et alors c'est le mystère de la plénitude du Christ qui est là, quand nous reviendrons à propos de la sainteté. Donc vous avez cinq raisons qui sont en même temps, et il faut bien le comprendre, une exégèse de Saint Augustin. Une exégèse de Saint Augustin. Saint Thomas a rassemblé, a résumé là, Saint Augustin, en lui donnant un ordre, un aspect organique, si vous voulez. Saint Augustin, c'est pas très organique, on le sait bien, c'est plus rhéteur. Et Saint Thomas, quand il lit Saint Augustin, le souci de retrouver dans Saint Augustin toute la structure de la vie humaine. C'est toute la structure de la vie humaine tendue vers le bien. Si vous regardez bien ces cinq raisons, c'est très beau. Ces cinq raisons donnent toute une structure. C'est constamment comme ça dans le traité de l'incarnation. Vous verrez que Saint Thomas résume tout. Tout ce qui est avant, qui est résumé pour montrer la promotion de l'homme vers le bien. Les vertus théologales, la manière dont les vertus théologales assument toute l'opération humaine, et en définitive, le point de vue de la béatitude. On est fait pour la béatitude. Alors vous voyez le traité de la béatitude qui est mis au point de départ dans la théologie morale, ici mis en dernier lieu. C'est aussi très très beau ça, de voir que l'ordre est inversé, mais qu'en définitive c'est cela. La promotion vers le bien, c'est la promotion vers la béatitude. Grâce au mystère d'incarnation, nous sommes appelés à une béatitude plénière. La béatitude même du Fils bien-aimé en qui le Père a mis toutes ses complaisances. Deuxième aspect pour comprendre comment ce moyen de l'incarnation est le moyen le plus parfait qui soit pour atteindre notre fin, c'est par rapport à la rémotion à l'égard du mal. Nous sommes situés entre le bien et le mal, hein, et nous devons tendre justement vers notre béatitude par le mystère de l'incarnation. Alors, c'est une promotion de l'homme dans le bien grâce à ce moyen, et c'est une rémotion à l'égard du mal. Le mystère de l'incarnation fait comme une espèce de séparation plus nette entre le bien et le mal. Et ça, c'est vrai. Autrement dit, le mystère de l'incarnation va mûrir l'humanité. Et c'est là où on devrait comprendre ça. Hein. Parce qu'on le sent très bien. On sent très bien ça, que le mystère de l'incarnation mûrit l'humanité de façon étonnante. Il la précipite vers le bien et il l'éloigne du mal. C'est en ce sens-là que l'homme est mûri davantage par le mystère de l'incarnation. Donc le mystère de l'incarnation va réaliser dans l'homme quelque chose d'extrême. C'est très étonnant, ça. Et je crois que c'est important de comprendre ça, parce que ça nous permet d'être beaucoup moins sévères dans nos jugements sur ce que c'est que l'homme chrétien. Je vous ai déjà dit, l'homme est plus que l'idéologie marxiste, l'homme est moins que la participation à la vie divine. Donc, on est toujours un peu écrasé en face de notre vie chrétienne. Et quand nous mettons cette vie chrétienne au carré par la vie religieuse, on est encore plus écrasé. C'est pas étonnant. C'est normal. Parce que de fait, on est tous un peu pris par ça. Vous savez, cette réflexion que faisait ce bon Autrichien au père général des Dominicains qui lui disait à Vienne, c'est le père général qui me le racontait, quand j'ai dit, c'est curieux, un pays comme l'Autriche devrait avoir beaucoup de vocations. Alors il répondait tout simplement, oh, vous savez, en Autriche, on trouve que c'est déjà assez difficile d'être chrétien. Et alors, être religieux, oh non. C'est très très joli, parce que c'est exactement ça. Et bien, là, cet article 2, vous voyez, donne la raison de ça. Par le mystère de l'incarnation, on est relié à Dieu d'une manière telle que l'exigence de l'amour, l'exigence du bien est beaucoup plus impérative et on doit être plus séparé du mal. Donc, ce qui fait que dans le cœur de l'homme, il y a une espèce de séparation plus grande parce que c'est un moyen qui vient d'en haut et non pas d'en bas. Vous savez, je vous ai déjà dit à propos, quand on a vu l'éthique au point de vue de la prudence, hein, et quand on voit le choix des moyens, il y a deux manières de choisir un moyen. Un moyen qui vient selon notre connaturalité, on a une bonne petite morale bourgeoise, et puis le moyen qui vient d'en haut, c'est-à-dire le moyen qui vient de la fin. Et alors à ce moment-là, on est tous un peu essoufflés. Bien, l'incarnation n'est pas un moyen qui vient d'en bas, c'est un moyen qui vient d'en haut. Et qui vient souverainement d'en haut, puisque c'est maximé par rapport à la bonté de Dieu. Donc c'est le moyen le plus étouffant, le plus essoufflant qui soit. Et donc qui nous étouffe de temps en temps. Forcément, ça ne peut pas être autrement. Si on réalise ce que c'est que d'être chrétien, si on réalise ce moyen de l'incarnation, c'est invraisemblable auprès de notre foi, de notre espérance et de notre charité. C'est très beau de voir ça, au point de vue de notre opération humaine, ça exige de nous d'aller toujours au maximum. On ne peut pas être chrétien bourgeoisement, c'est impossible. On ne peut être chrétien que divinement. C'est pour ça que la vie religieuse est tellement connaturelle à la grâce chrétienne. C'est presque normal, je dirais. Une fois qu'on a compris, et c'est beau parce que cet article 2 fonde cela. Si on le regarde attentivement, c'est pour ça qu'il faut le regarder avec beaucoup, beaucoup d'attention, cet article 2, parce qu'il donne le fondement de tout ce que représente l'exigence de la vie chrétienne. Toujours un peu essoufflé. C'est normal, si vous n'étiez pas essoufflé, « Ah, moi, bah, ça va très, très bien, c'est parfait, je trouve que c'est très normal, non, c'est bien. Bah, vous êtes sur un haut plateau, c'est tout. Vous ne montez plus. » Tandis qu'on monte tout le temps, tout le temps. Et c'est maximé, ça va loin, ça, c'est maximé. Maximé excitatur, maximé eriditur. Du côté de la foi, magis certificatur. C'est très très joli ça. Alors du côté de l'opération, et alors du côté de la béatitude, la plénitude. Alors du côté du mal, le mystère de l'incarnation va nous donner une situation nouvelle par rapport au mal. Ça aussi c'est très intéressant. Une situation humaine. Vous voyez, essayez de comprendre ce que dit saint Thomas dans une situation plus, on dirait aujourd'hui, phénoménologique, en comprenant le vécu du mystère de l'incarnation. Eh bien, le mystère de l'incarnation va nous mettre, de fait, dans une situation particulière par rapport au mal. D'abord, par rapport à la source du mal, le démon. Grâce au mystère de l'incarnation, j'ai une situation nouvelle par rapport au démon. On n'y pense pas assez, ça. On croit toujours qu'on a une situation humaine par rapport à... On a une situation humano-divine. Hein. On a la situation d'enfant de Dieu par rapport au démon. Alors, saint Thomas souligne que grâce au mystère de l'incarnation, l'homme va apprendre à ne pas préférer le diable à lui. Et à ne pas avoir vis-à-vis de lui une attitude de vénération. Très curieux ça. Si je regarde d'un point de vue humain, je regarderai la nature angélique. La nature angélique, ah oui, elle est plus parfaite que la nôtre. C'est évident. On fait toujours un petit complexe, mais par rapport aux anges. Hein. Un petit complexe de on est bêtes à côté des anges. Ils sont tellement intuitifs et nous raisonnons. Alors on a un petit peu ça, on a un petit peu cette attitude-là, mais je suis battu d'avance. Il y a des gens qui sont battus d'avance. Eh bien, l'incarnation m'empêche d'être battu d'avance et me donne vis-à-vis du démon une situation tout à fait nouvelle. Parce que je regarde le démon dans le regard du Christ. C'est ce que tous les pères de l'Église ont vu quand ils ont regardé les tentations de Jésus au désert, qui étaient pour nous la manière dont nous devons répondre au démon. Sans le regarder. C'est souverainement méprisant. Sans le regarder. Alors que le démon aime tellement qu'on le regarde. Il n'aspire qu'à ça. Il n'aspire qu'à une seule chose, c'est qu'on le regarde tout le temps. Tout le temps. Eh bien, grâce à Jésus, on ne le regarde plus. On sait qu'il est. On sait qu'il existe. On sait qu'il est là. Circuit querens cum devoret. On sait qu'il est furieux. On sait qu'il est le dragon. On le sait. Mais on ne le regarde plus. On ne le regarde plus parce que justement, entre le démon et nous, il y a Jésus, victorieux du démon. Deuxième raison, vous voyez, c'est très fort ça, et c'est ça, je trouve ça très important. On ne le voit pas assez. Vous voyez, on est trop attentif au démon, à la personne du démon. On ne doit pas. On doit avoir une espèce de dignité. Alors, c'est la seconde raison. Le sens de la dignité de la nature humaine. C'est-à-dire de comprendre que nous sommes, de fait, dans la grande famille de Dieu, les préférés. Nous sommes créés à l'image de Dieu et nous sommes créés comme, vraiment, comme le chef-d'œuvre de Dieu. Ça, c'est la dignité de la nature humaine, chef-d'œuvre de Dieu. Et le mystère de l'incarnation montre ce chef-d'œuvre d'une manière étonnante. Parce que nous ne pouvons plus le regarder dans notre voisin, le chef-d'œuvre de Dieu. Hein. Et en nous non plus, il est tellement abîmé. Mais nous pouvons le regarder dans le Christ. Alors nous ne regardons plus la nature humaine dans l'Éden, dans le paradis terrestre. Nous le regardons dans le Christ. Et dans le Christ, nous découvrons le chef-d'œuvre de Dieu, la nature humaine. Ensuite, troisième raison, toujours par rapport au mal, vous voyez, c'est beaucoup moins organique, hein. La seconde partie de l'article est beaucoup moins organique. La première partie est très organique parce que c'est le bien, et le bien s'organise. Tandis que dès que je pars par rapport au mal, c'est pas organique. Il y a la source, vous voyez bien ça, c'est bien évident. Vous voyez la dignité, ça c'est normal. Alors ensuite, détruire la présomption de l'homme. La présomption de l'homme, c'est la caricature d'espérance, hein. L'espérance nous donne un désir et une force divine. Et la présomption, c'est de croire qu'on est capable par nous-mêmes de réaliser ça. Alors ça, c'est la présomption humaine. Donc c'est par rapport directement à la fausse espérance. Quatrième raison, l'orgueil de l'homme. Pour lui donner une plus grande... une humilité. Alors, il y a une petite expression de saint Thomas qui est très belle. Par une si grande humilité de Dieu. Une si grande humilité de Dieu. Le mystère de l'incarnation nous dévoile. On ne peut pas dire que Dieu est humble. Saint Thomas serait le premier à dire qu'on peut le dire. Mais l'incarnation nous dévoile quelque chose de merveilleux. La kénose de Dieu. Et vous voyez que c'est présent là, la si grande humilité. Alors par là, ça nous permet justement d'avoir un désir d'humilité. Donc ça supprime l'orgueil. L'orgueil, c'est contre le point de vue de la foi et de l'amour. Et enfin, libérer l'homme. Vous voyez, on pourrait dire que les trois dernières raisons, c'est par rapport aux vertus théologales. Et je crois que c'est par rapport aux vertus théologales, dans les luttes, la vertu théologale dans sa lutte. La présomption arrête le point de vue de l'espérance, l'orgueil arrête le point de vue de la foi. C'est l'orgueil le grand obstacle à la foi. Il y a une foi contemplative. Et pour libérer l'homme de la servitude du péché, donc la théologie de la libération, vous voyez, qui arrive là en dernier lieu, saint Thomas la fonde, pour libérer l'homme de la servitude du péché, par la satisfaction du Christ pour nous. là. Ça, c'est la charité. Vous voyez, je crois qu'on peut organiser de cette manière-là. C'est très important, cette dernière partie, pour essayer de situer l'homme dans le Christ par rapport au démon, par rapport aux forces du mal, par rapport à la lutte. L'incarnation nous permet de lutter avec une force beaucoup plus grande et nous donne des armes divines. C'est ça le grand mystère de la lutte qui nous est montré là. Et vous avez là les grands aspects. Donc vous avez là un aspect qui est extrêmement grand. C'est très contemplatif cet article 2. Hein, parce que c'est une grande synthèse, une grande vision dans la lumière de la sagesse de Dieu, la place de l'incarnation par rapport à l'homme. Le mystère d'amour de Dieu qui vient vers nous par le mystère de l'incarnation pour nous appeler promotion vers le bien, pour nous appeler vers le bien. Quand je serai attaché sur le bois, j'attirerai tout à moi. Donc c'est cette grande attraction qui nous est montrée vers le Christ et par le Christ, et en même temps cette force qui nous est donnée pour éviter le mal, rejeter le mal, et avoir vis-à-vis du démon une situation qui n'est plus la situation du vaincu, parce que en tant que pécheurs, nous sommes des vaincus. En tant que rachetés par le Christ, sauvés par le Christ, dans le mystère de l'incarnation, nous sommes sauvés. Et alors c'est le mystère de l'incarnation, et l'application du mystère de l'incarnation sera le mystère de la rédemption. Mais voyez bien qu'il s'agit de montrer... L'incarnation était-elle nécessaire au relèvement du genre humain ? Montrer comment ce moyen choisi par Dieu va s'enraciner dans l'homme pour montrer à l'homme un surhomme. Oui, c'est notre manière d'être surhomme, c'est d'être dans le Christ. Et alors vous avez les cinq dimensions du surhomme, et comme l'équilibre est parfait, les cinq dimensions positives et les cinq dimensions de la lutte. Ce serait très beau de développer ça au point de vue spirituel. C'est un article qu'on peut développer de façon spirituelle étonnante. C'est merveilleux, ça, de contempler ce que nous dit saint Thomas ici. Vous voyez, les dix dimensions de l'homme nouveau. Parce que c'est les dix dimensions de l'homme nouveau. Cinq positifs, cinq négatifs par rapport au mal. Et vous avez là, je crois, une synthèse merveilleuse de ce que c'est que le chrétien. L'homme assumé par le mystère de l'incarnation. L'homme renouvelé par le mystère de l'incarnation. Grâce à ce moyen divin, l'homme a une situation nouvelle par rapport au bien, une situation nouvelle par rapport au mal. Le mal n'est pas supprimé, la lutte est là, et même la lutte est plus forte qu'avant. Ça, nous le verrons, la lutte est plus forte qu'avant, mais nous avons une arme divine. Et nous pouvons alors aller beaucoup plus rapidement. Réponse maintenant aux objections. Je voulais vous montrer, parce que c'est toujours comme ça, saint Thomas. Saint Thomas, il n'y a pas de bavure, hein. Alors il dit les choses avec une simplicité, vous pouvez lire ça, oui, du ça. Mais voyez ce que c'est pour vous. Vous voyez, la théologie nous engage. Hein. Elle nous engage dans notre foi, dans notre espérance et notre amour. Et donc il faut comprendre ce que c'est pour nous. Qu'est-ce que c'est que le mystère de l'incarnation pour nous ? On est tellement habitués qu'on ne voit pas ce caractère d'un don donné absolument librement. Et un don de surabondance. Dieu pouvait très bien agir autrement. Et j'allais dire, il était lié à sa bonté. Et c'est un langage de bonté. Et le mystère de l'incarnation, c'est un langage de bonté. Alors si c'est un langage de bonté, c'est merveilleux. Parce que c'est Dieu tout proche de nous. Et c'est Dieu qui a voulu être le plus proche possible de nous. Nous sauver dans cette proximité par rapport au bien et dans cet éloignement par rapport au mal. Alors, voyez maintenant la réponse aux objections, c'est facile. Je vous avais dit la dernière fois, première objection, n'est-ce pas, c'est... Dieu aurait pu très bien, l'incarnation n'est pas nécessaire puisque le Verbe de Dieu n'a pas été augmenté, accru, par le mystère de l'incarnation, donc il pouvait très bien nous relever sans l'incarnation. C'est un peu béant hein, comme objection. C'est pas très très astucieux. On aurait fait aussi bien. Hein. La réponse, c'est sans doute, il n'était pas absolument nécessaire que le Verbe s'unit à la nature humaine. C'est tout simplement ça. De nécessité absolue, c'était pas nécessaire. Mais il s'agit ici d'utilité pour l'homme et non d'exigence. Alors, voyez bien, c'est par mode, c'est pas par le mode de nécessité, puisqu'il aurait pu le faire autrement. Mais c'est ce que saint Thomas souligne à la fin de l'article, en soulignant, et ça il faut le souligner aussi très nettement, que l'incarnation apporte de nombreuses utilitates, hein, côté d'efficacité, qui suivent l'incarnation, et puis des quantités de choses que nous ne pouvons pas découvrir par notre sens humain. Oui, saint Thomas sait qu'il dit certaines choses, mais qu'il est complètement dépassé par le mystère. Donc ça c'est facile, la première objection elle est très simple. Hein. C'est évident que Dieu n'était pas obligé de nous sauver par l'incarnation. C'est sûr. C'est pas une nécessité absolue. Alors, la seconde raison qui dit que l'homme pourrait se sauver par lui-même et que ce serait plus digne de la nature humaine, elle est beaucoup plus subtile celle-là. Elle est beaucoup plus subtile. Au fond, vous voulez ennoblir l'homme, et la grande manière d'ennoblir l'homme, c'est justement de montrer que l'homme peut réparer sa faute. Et c'est ce qu'on fait dans l'éducation. Un gosse, on dit, mais oui, c'est pas étonnant, il est tout petit, il peut pas réparer. Mais quand tu seras grand, tu répareras toi-même. Hein. Et puis quand l'enfant grandit, tu dois réparer toi-même. Hein. Tu dois payer tes dettes. Hein. Et si tu ne te payes pas tes dettes, ça va pas. Quand il est tout petit, c'est les parents qui paient pour le gosse. Mais quand il est grand, alors, puisqu'il s'agit de montrer la dignité, mais que ce soit l'homme qui répare. La réponse, là, elle est très très intéressante. Nous la retrouvons quand nous verrons le mystère de la rédemption. Et c'est aussi par rapport à saint Anselme. Et c'est aussi par rapport à saint Irénée. C'est très très joli ce que dit saint Thomas ici. On voit très bien. Et ça fait comprendre pourquoi saint Thomas ne cite pas saint Anselme ici directement. Il est d'accord et pas entièrement d'accord. Saint Anselme, il y a des petites distinctions que saint Anselme n'a pas fait. La satisfaction pour le péché, tout en étant suffisante, peut être parfaite ou imparfaite. Vous voyez, ça c'est tout à fait, évidemment, la manière aristotélicienne de penser. Deux modalités, la modalité parfaite et imparfaite. La satisfaction est parfaite quand elle compense adéquatement la gravité de l'offense commise. Alors vous êtes en face d'une satisfaction parfaite. Qu'est-ce que c'est que satisfaire ? C'est réparer. C'est réparer la faute commise. Hein. C'est ça que vous satisfait quand on satisfait. Tout simplement, j'ai pris 20 francs dans la poche de mon voisin. 20 francs suisses, hein. J'ai pris 20 francs dans la poche de mon voisin, eh bien, je dois lui rendre, même si je les ai dépensés. Je dois lui rendre, et je dois tout faire pour lui rendre. Et je dois satisfaire pleinement. Si je ne donne que la moitié, c'est pas une satisfaction parfaite. C'est un petit geste, bien, c'est très bien, mais c'est imparfait. Alors dire, oui, je comprends, tu es pauvre, alors, très bien, on n'en parlera plus. N'est-ce pas ? Alors on accepte comme ça, mais au fond c'est pas une satisfaction parfaite. La satisfaction est de l'ordre de la justice, elle n'est pas de l'ordre de la miséricorde. Elle est de l'ordre de la justice, satisfaire. Hein ? Et c'est pour ça que la justice demande d'être adéquate. C'est le propre de la justice, la justice relève de l'intelligence, c'est adéquat une justice. Res. Hein ? Ça te coûte tant, je te donne tant. Ça demande d'être rigoureux, toujours. Donc, elle est parfaite. La satisfaction est parfaite quand elle compense adéquatement la gravité de l'offense. Elle est condigna. Alors, retenez le terme, parce que ça, c'est un terme classique. La satisfaction est condigna. Per quamdam adequationem ad recompensationem commisse culpe. La faute a fait une blessure, elle a fait une offense, eh bien, il faut réparer adéquatement l'offense. En ce sens, un homme, simplement homme, n'a pu offrir de satisfaction pour le péché. En ce sens-là, saint Anselme a raison. L'homme ne peut pas satisfaire pleinement. Impossible. Le péché, en effet, ayant corrompu toute la nature humaine, la bonté d'un ou de plusieurs individus ne saurait compenser par équivalence le détriment causé à toute la nature humaine. Saint Thomas prend ici la raison, non pas de l'offense. Il le reprendra en parlant de la rédemption. L'offense commise par Dieu, l'offense dépend de la dignité de la personne. C'est pas la même chose d'offenser le président de la République que d'offenser le gendarme du coin. C'est grave tous les deux, mais c'est pas la même chose quand même. Alors, quand on offense quelqu'un qui est revêtu d'une dignité suprême, l'offense devient beaucoup plus grave. L'offense a donc une gravité plus ou moins grande en fonction de la dignité de la personne offensée. Quand vous offensez Dieu, qui a une dignité infinie, l'offense est infinie. Et c'est pour ça que jamais l'homme ne pourra satisfaire pleinement. L'homme peut abîmer d'une façon infinie, il ne peut pas réparer d'une façon infinie. Alors, saint Thomas n'emploie pas cette raison-là ici, vous voyez. Il emploie la raison beaucoup plus facile de l'extension, mais pas de l'intensité. Et la raison de l'intensité est d'une certaine manière plus forte. Il fait ça parce que, par affection pour nous, pour que ce ne soit pas trop dur à comprendre. Mais c'est quand même important, puisqu'il s'agit de l'offense faite au péché. Alors l'offense faite au péché peut dégrader tous les hommes. La conséquence du péché originel, c'est que toute l'humanité est mise dans un état d'infériorité. Or, un homme ne peut jamais porter toute l'humanité, sauf Jean-Jacques. Hein? Parce qu'il est le seul à pouvoir faire ça. Lui, il prétend qu'il peut le faire. Parce qu'il ne sait plus. Mais autrement, il ne peut pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Personne d'entre nous ne peut porter pour toute l'humanité. Impossible. Alors, il faut comprendre que c'est l'homme parfait, qui est l'homme Dieu, qui peut faire ça. De plus, le péché commis contre Dieu comporte une certaine infinité. Alors, c'est cette raison, vous voyez, qui est la chose la plus importante. Là, d'abord l'extension, puis l'intensité. De plus, le péché commis contre Dieu comporte une certaine infinité en raison. Alors, une certaine infinité, ça c'est toujours très délicat à bien saisir, parce que quamdam infinitatem habet, une certaine infinité en raison de l'infinie majesté qui l'offense. La faute, en effet, se mesure à la dignité de celui qu'elle outrage. Il faudra donc que la satisfaction parfaite ait une efficacité infinie et soit par suite l'acte d'un Dieu-homme. Vous voyez, c'est la raison la plus forte. L'autre, l'extension. Extension et intensité. C'est intéressant de voir les deux. On commence par l'extension pour une facilité, et puis ensuite l'intensité. L'intensité, l'offense touche Dieu. Le péché touche Dieu et offense Dieu. Donc offense la dignité de Dieu. Et si le péché offense la dignité de Dieu, donc il y a quelque chose d'infini à réparer. Et ce point de vue-là, l'homme ne peut pas. Donc une double infirmité du côté de l'homme pour satisfaire parfaitement. Du côté de l'extension, il n'est pas responsable de tous les hommes, il est incapable de poser un acte qui a une répercussion sur tous les hommes. Et deuxièmement, au point de vue de l'intensité, c'est que le péché implique une offense d'une certaine façon infinie par rapport à Dieu, étant donné la dignité de Dieu. Mais s'il s'agit d'une satisfaction imparfaite, il suffit pour qu'elle soit efficace, que l'offensé veuille bien s'en contenter. Ce que je disais tout à l'heure. Vous avez pris une somme d'argent à quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup plus riche que vous, vous avouez votre faute, vous dites, mon cher ami, je ne peux pas te donner plus. L'autre, dans un geste libéral, dit, je sais bien, ce n'est pas du tout adéquat, mais je t'aime tellement. La question entre nous est réglée. Vous voyez, alors, l'amitié vient remplacer la justice. On peut toujours faire ça. Entre amis, c'est ce qu'on fait tout le temps. Entre amis, on fait tout le temps. J'attends qu'un petit geste, qu'on reconnaisse sa faute. Tant que si on n'a pas reconnu sa faute, non, ça ne va pas. Mais si tu reconnais ta faute, mais c'est bien évident, tout est pardonné. Alors Dieu aurait pu faire comme ça. Dieu aurait pu dire, mais c'est évident, tout est pardonné. Le petit geste, simplement, un homme, un acte d'humilité, un acte d'adoration et d'humilité, dire, mais oui, nous sommes des pécheurs et Dieu seul peut réparer. Alors ça, c'est une satisfaction imparfaite. Hein. Voyez bien, alors elle est enveloppée de miséricorde du côté de l'offensé qui veut bien se contenter d'une satisfaction imparfaite. Sous ce rapport, l'homme, simplement homme, peut satisfaire pour le péché. Cependant, l'imparfait présuppose de quelque façon le parfait qui le fonde. De là vient en réalité que la satisfaction de l'homme puisera son efficacité dans celle du Christ. C'est aussi très très joli ça. C'est très bien de raisonner du côté de l'imparfait, mais l'imparfait ne se comprend que dans la lumière du parfait. Alors on est coincé. L'insatisfaction imparfaite, d'une certaine manière, ne peut se comprendre que du côté de la satisfaction parfaite. Or la satisfaction parfaite ne peut se faire que par l'homme Dieu. Ne peut pas se faire autrement. Il faut être Dieu pour réparer. Jésus seul peut supporter la justice du Père, seul, parce qu'il est homme Dieu. Et donc seul il peut se présenter comme une victime de propitiation pour toute l'iniquité du monde, seul. Il peut satisfaire d'une façon parfaite. Alors vous voyez, c'est intéressant de voir ici. Vous rejoignez ce qui était dans le corps de l'article, c'est toujours intéressant de voir la manière dont saint Thomas compose les choses. Cinquième raison, n'est-ce pas, pour libérer l'homme de la servitude du péché par la satisfaction du Christ pour nous. Vous voyez l'insertion de la satisfaction par rapport au mystère de l'incarnation. C'est la dernière raison. C'est très curieux ça, et ça c'est très très intéressant. Pour essayer de comprendre l'équilibre entre l'incarnation et la rédemption. Mais là, il y a un petit lien que saint Thomas pose. Vous voyez, la dernière raison que donne saint Thomas, la cinquième, quand il donne la rémotion du mal, la cinquième, il fait appel à la satisfaction. Et nous retrouvons alors, dans la secundum, la raison profonde du mystère de la satisfaction. Pour qu'il y ait satisfaction plénière, il faut l'incarnation. Or, la satisfaction imparfaite ne peut pas se comprendre d'elle-même, elle ne peut se comprendre que par la satisfaction parfaite. Donc, d'une certaine manière, vous retrouvez la cinquième raison par rapport au mal, pour libérer l'homme de la servitude du péché. Alors, la dernière raison, elle est très facile, n'est-ce pas ? C'est facile à comprendre que saint Thomas mettait comme objection, c'est la troisième objection, que l'incarnation risquait de fait de nous enlever le véritable respect à l'égard de Dieu. Or, respecter Dieu, adorer Dieu, c'est la chose essentielle pour que l'homme puisse être complètement libéré du péché. Autrement dit, cette troisième raison montre l'importance de l'adoration dans le relèvement de l'homme. L'homme ne peut pas se relever pleinement sans le mystère de l'adoration. Alors, saint Thomas répond, l'incarnation ne rabaisse nullement la majesté divine. Et bien loin d'affaiblir notre respect, elle ne peut que l'accroître en nous faisant connaître Dieu davantage. Alors, mettez là le geste de Jésus qui chasse les vendeurs du temple. C'est très net. L'incarnation nous donne un sens plus profond de la majesté souveraine de Dieu, par Jésus. Si je regarde l'incarnation de l'extérieur, alors ce sera l'inverse. Mais si je regarde l'incarnation de l'intérieur, c'est-à-dire en entrant dans le mystère du cœur de Jésus et des intentions profondes du cœur de Jésus par rapport au Père, alors je dis l'incarnation nous donne un sens plus aigu de l'adoration. L'adoration en esprit et en vérité. C'est une adoration qui va plus loin. Et c'est manifesté par le geste du Christ qui chasse les vendeurs du temple. Passons maintenant. Au fond, les deux premiers articles sont des articles extrêmement importants. au point de vue de notre regard sur le mystère de l'incarnation, du point de vue de l'économie divine, en comprenant bien la complémentarité de 1 et 2. Alors, la troisième, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Ce sera le troisième du reste, c'est très curieux, c'est toujours un peu comme ça, qui donnera lieu au plus grand développement, alors que les deux premiers n'ont pas donné lieu à beaucoup de développement. Parce que c'est plus contemplatif. Alors que c'est les deux premiers sur lesquels on doit insister. Le troisième, c'est par mode hypothétique. Alors c'est toute l'industrie des gens qui va se mêler, c'est toute la subtilité des commentateurs. Dans l'hypothèse où l'homme n'eût pas péché, Dieu se serait-il incarné ? Dans l'hypothèse. La théologie n'est pas une théologie des hypothèses. Saint Thomas, de temps en temps, fait des hypothèses, mais très peu, et jamais au point de départ. Vous comprenez que dans une perspective modernisante, à la suite donc d'une philosophie des possibles, cet article 3 serait l'article 1er. Il commanderait tout. Et très, c'est la réaction des gens, spontanément. Vous voyez le motif d'incarnation ? Ah mais oui ! Alors, dans l'hypothèse où l'homme ne serait pas homme, tout de suite, c'est ça la grande question. Non, non, pour saint Thomas, ce n'est pas la grande question. La grande question, c'est l'article 1er et l'article 2. Tout concevoir dans la lumière de la bonté de Dieu. Et tout concevoir dans le point de vue de l'ennoblissement de l'homme. C'est l'incarnation, vous voyez, c'est l'incarnation qui commande tout. Alors l'incarnation liée à la satisfaction, la dernière raison sera là, et par là on voit très bien le lien avec tout le mystère de la rédemption, mais c'est le mystère de l'incarnation. Alors l'article 3, donc Dieu se sera...